Voilà, bonsoir. Merci à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième étude sur le Saint-Esprit. Emmanuel est là-bas en train de faire des réglages. Il proposait qu'on fasse un petit moment de chant louange avant la soirée. Alors, Anne-Laure nous a préparé trois chants, c'est ça? Et vous allez les chanter. Et ensemble, on va glorifier notre Seigneur. Donc, enfin, il va être, ça va être rétro, mais 391 dans les gemmes 2, comme un phare. À toi la gloire, le 38.
Thank you.
612, j'aime 2. Puissant, saint, comme nous l'avons vu cet après-midi. Merci parce que tu as voulu habiter dans nos cœurs, par ton esprit, à ceux qui confessent leur péché, qui passent par le sang, par la croix de Jésus. Oh, merci pour cet esprit qui nous habite, Seigneur, que je ne l'éteigne pas, que je ne l'attriste pas. Seigneur, que ce temple que tu veux dans ma vie soit ta gloire, soit une lumière du monde, le sel de la terre, de l'amour pour mes frères et sœurs. Ô Seigneur, travaille nos cœurs par ton esprit. Ce soir, Seigneur, par ton serviteur, demain, après-demain, jusqu'au bout. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous l'avons chanté aussi, tu es un Dieu fidèle, tu es un roc, tu relèves, et nous comptons sur toi, Seigneur. Loué sois-tu. Amen. Alors, je passe à Emmanuel avec plaisir et encore merci aux jeunes aussi d'être avec nous ce soir. Et je pense qu'il y aura un petit quelque chose pour vous. Il suffit d'écouter.
Le premier qui dort, il a un gage. Attention, je regarde, hein. Le premier qui dort, il a un gage. Qu'est-ce qu'on va lui trouver comme gage? Ouais, j'ai déjà remarqué tout à l'heure. Je dis pas les noms. Voilà, eh bien, Michel m'a demandé tout à l'heure de prendre quelques instants pour présenter la mission avec laquelle je travaille. Donc, dans un premier temps, je vous propose non pas d'entrer directement dans le vif de notre sujet concernant la personne du Saint-Esprit, mais plutôt de prendre quelques instants pour vous présenter l'association avec laquelle j'ai la joie de travailler maintenant depuis plus de 10 ans. D'abord, quelques présentations. Voilà, ma famille, parce que je suis marié. Mon épouse Fabienne, ma petite femme, petite, mais elle assure. Nous avons 4 enfants, Samuel l'aîné que vous voyez ici qui a 14 ans, ensuite Johanna la deuxième, 13 ans, Anaïs 9 ans et puis le petit dernier la surprise, la bonne surprise, Raphaël, qui a 2 ans. Donc il y a de l'animation à la maison. Nous habitons à Delle, petite ville qui se situe dans le territoire de Belfort, petite ville de 7000 habitants entre Belfort et Montbéliard. Nous sommes à 2 km de la Suisse, 15 km de Porrentruy, 45 km de Mulhouse, ou Mulhouse, ça dépend comment est-ce qu'on prononce. Et puis nous sommes à 441 km selon la SNCF de Paris, gare SNCF, Paris-Est. J'exerce donc un ministère d'évangéliste avec une association qui s'appelle France Évangélisation. Donc France Évangélisation, c'est une vieille dame qui a subi un lifting, en plus c'est tendance, pour certains, on se rajeunit. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui font des liftings et autres, vous savez pourquoi ? Parce que les gens n'ont plus d'espérance. Et la seule espérance qu'ils ont, c'est juste une parenthèse, c'est la vie sur terre. Et pour eux, la vie éternelle, c'est le temps qu'on passe sur terre. Et c'est pour ça qu'il faut rester jeune le plus longtemps possible, parce qu'il n'y a plus d'espoir. À partir du moment où on n'a plus d'espoir, on n'arrive plus à se projeter pour l'avenir, seul compte l'aujourd'hui. Et par conséquent, cet aujourd'hui doit être vécu le mieux possible. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont dans cette direction. Et nous, c'est de leur apporter aussi un espoir et de leur montrer qu'il y a autre chose, non seulement pour cette vie, mais aussi qu'il y a une vie future qui nous attend. Et donc France Évangélisation a subi un lifting il y a quelques années. C'est une association qui a connu des évangélistes qui étaient connus, appréciés dans le milieu évangélique, tels que André Adoul, Alain Chouaquier, Yves Perrier, Jacques Mouillon, Marc Foriot aussi, qui est près d'ici, qui a travaillé et qui travaille à la Villa Emmanuel. Et puis dans les années 90, comme beaucoup d'associations, il y a eu un passage à vide. Et il n'y avait pas de relève qui était là. Et Yves Perrier, surtout, a poussé, a dit, mais il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Un jour, il y a un jeune qui va sonner, qui va frapper à la porte de notre association. Et nous, qu'est-ce que nous allons lui proposer? Est-ce que nous avons déjà réfléchi? Et effectivement, quelques années plus tard, en 1994, il y a un jeune, c'était moi, qui a frappé à la porte de l'association, qui était interpellé par l'ordre de mission de cette association. Et je leur ai demandé, écoutez, moi, je me sens appelé à ce ministère. Je suis jeune, je suis en train de terminer mes études. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais il y a dans mon cœur quelque chose qui brûle et j'ai envie d'annoncer l'évangile. Est-ce que vous auriez quelque chose à me proposer? Et puis ils ont pris ma demande au sérieux. Ils m'ont proposé d'abord un stage de 3 ans dans l'église où nous sommes toujours à Delle. Et puis par la suite, eh bien, maintenant ça fait plus de 10 ans que j'exerce ce ministère d'évangéliste en France et à l'étranger. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. France Évangélisation, voici l'association. Nous sommes actuellement 4 évangélistes, donc à plein temps. Heureusement qu'il y a eu Yves Perrier, heureusement qu'il y a eu des évangélistes qui, à un moment donné, ont réfléchi et se sont dit, il faut que les choses bougent, que les choses avancent. Nous avons changé de président aussi. Nous avons un nouveau président depuis 1 an, Alain Stamp, que vous connaissez, qui est responsable de la communication aussi au niveau de la Fédération évangélique de France, qui est aussi mon mentor depuis maintenant 9 ans. Et nous avons aussi Frédéric Travier, que vous connaissez bien, qui est venu plusieurs fois ici, qui habite dans le sud de la France, près de Nîmes. Donc la particularité du ministère de Frédéric, c'est qu'il est non seulement évangéliste, mais il a aussi un fort charisme d'enseignant. Il aime beaucoup enseigner la parole de Dieu, comme vous vous en êtes rendu compte, encourager, édifier les chrétiens. Nous avons ensuite Daniel Coronès, qui lui est aussi dans le sud, à côté de Cannes-la-Bocca. Daniel qui travaille beaucoup avec les églises au niveau local, qui s'occupe aussi d'un travail d'implantation, qui a de nombreux contacts, qui est vraiment un évangéliste encore plus que nous, plus que dans le terrain. C'est-à-dire qu'il commence des groupes de maisons, donc il est beaucoup investi au niveau de l'évangélisation locale dans son église, cherchant à créer de nouvelles églises et cherchant aussi à travailler avec les églises au niveau local. Et il est très intéressant en tout ce qui concerne la formation à l'évangélisation et particulièrement tout l'aspect relationnel. C'est vraiment un de ses grands dons et un de ses ministères, c'est l'aspect relationnel. Comment créer des contacts avec des personnes, comment commencer des groupes de maison, comment développer une nouvelle dynamique, etc. Lui, il s'inscrit parfaitement là-dedans. Nous sommes finalement très complémentaires les uns des autres. Nous avons le dernier arrivé de la bande, c'est Raphaël Hansenberger qui est ici, qui est aussi secrétaire général de notre association. Et Raphaël travaille beaucoup, lui, dans le milieu estudiantin. C'est l'apologète, c'est la tête de la bande. Celui qui aime bien penser les choses, qui est en train de faire son doctorat aux États-Unis en missiologie. Et donc Raphaël nous pousse à réfléchir à tout ce qui est missiologie et d'autre part tout ce qui est aussi apologétique. Et donc souvent, ils travaillent avec des étudiants pour partager la foi, mais non pas pour inviter les personnes tout de suite à prendre une décision, mais déjà répondre à toutes les questions que les jeunes et les moins jeunes peuvent se poser afin de préparer le terrain pour ensuite pouvoir semer. Raphaël exerce son ministère en France avec plusieurs églises, et puis il voyage aussi pas mal, des fois en Angleterre, dans les pays de l'Est, et puis aussi aux États-Unis pour aller se former. Et puis il y a moi-même, donc qui suis le plus ancien, je me montre alors que je suis là. N'importe quoi. Hein? Je pense ça à l'instant, mais... Voilà, un truc comme ça. Hein? Je suis pas encore tout à fait dans mon truc, là, mais ça va venir. Faut que ça chauffe. Et donc, c'est moi qui travaille avec l'association maintenant depuis environ 11 ans maintenant. Et mon ministère a plusieurs orientations, plusieurs axes. Premier axe, c'est tout ce qui concerne bien sûr l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile, que ce soit au travers de conférences, au travers d'évangélisation plus classique, avec des diaporamas, sans diaporamas, avec une église, avec plusieurs églises, dans toutes les configurations possibles, dans un restaurant, à la maison, dans un groupe de maison, ou alors dans une église ou dans une salle. Enfin, il y a toutes sortes de configurations qui sont envisageables et dans lesquelles j'ai déjà travaillé. Un second axe de mon ministère, c'est les dîners-conférences que je développe souvent, notamment autour du thème « Voyance astrologie guérisseur ». Depuis plusieurs années, le Seigneur m'a ouvert des portes aussi par rapport à l'occultisme. Non pas que c'est un thème réjouissant, mais c'est une spiritualité qui intéresse beaucoup de nos concitoyens, surtout par rapport aux trois grandes portes d'entrée qui sont le spiritisme, donc tout ce qui est médium esprit, ce qui est la voyance, deuxième porte, et puis l'autre porte qui est aussi bien présente, surtout dans votre région, c'est tout ce qui concerne les guérisseurs. Et donc régulièrement, j'ai l'occasion de faire des dîners-conférences sur ce thème. On loue un restaurant, on loue une salle, etc. Et on a déjà eu jusqu'à 150 personnes qui sont venues. On fait de la publicité dans les journaux et souvent on a des guérisseurs, des voyants qui viennent de l'extérieur. Et donc à travers ce thème, c'est l'occasion de leur proposer une autre approche, leur montrer la face cachée, ce dont personne ne parle, ce qui est caché, mais ce qui est pourtant bel et bien une réalité. Et plusieurs déjà, à travers cela, se sont convertis et surtout ont été délivrés. Et donc le Seigneur m'a aussi donné régulièrement de prier pour des personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là. Troisième angle d'attaque, c'est tout ce qui concerne la formation à l'évangélisation, que je donne dans le cadre d'églises, mais aussi d'instituts bibliques, que ce soit à Nogent-sur-Marne, à Emmaüs ou alors à Genève. Et puis le quatrième axe que je développe maintenant depuis 2 ans, parce que j'ai remarqué que c'était un besoin pour les églises, les unions d'églises, c'est tout ce qui est séminaire de formation pour évangélistes. Alors ça, c'est un séminaire pour encourager tous ceux qui ont cette fibre d'évangéliste, qui ont soit déjà un ministère reconnu, ou alors un ministère, ils sentent qu'il y a quelque chose à ce niveau-là et ils ne savent pas comment se positionner. Comment est-ce qu'on sait qu'on est évangéliste? Quelles sont les caractéristiques d'un évangéliste? Quels sont les dons d'un évangéliste? Comment faire pour développer ce ministère? Faut-il envisager un ministère à plein temps? Faut-il envisager un ministère à mi-temps? Comment est-ce que ça s'inscrit? Quels sont les différents types de ministères qu'évangélistes, qui ont ce ministère d'évangéliste? Est-ce que c'est uniquement un ministère d'évangéliste de type prédication, ou alors est-ce qu'il y a de la place pour d'autres ministères aussi d'évangélistes? Donc autant de questions qui sont développées et abordées à travers ce séminaire. Pour évangélistes, un deuxième séminaire sur la communication et un troisième sur l'évangéliste et son message. Je travaille principalement en France avec des églises de toutes dénominations, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, sans dire qui est à droite ou à gauche. Donc toute la palette du monde évangélique. Et depuis plusieurs années, Dieu m'a ouvert des portes aussi, notamment en Haïti, où je dois retourner d'ici une dizaine de jours, où je suis déjà allé de nombreuses fois, et aussi en Afrique, au Bénin, au Burkina Faso, à Kinshasa, et d'autres endroits aussi qui sont prévus. Donc dans ces pays, je m'y rends, ça représente environ 10 à 15% de mon ministère. Quand je me déplace, je travaille toujours avec des équipes sur place que je connais, des personnes en qui j'ai confiance, qui travaillent, qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont là aussi pour préparer le terrain, pour me permettre de pouvoir exercer le ministère. Vous avez ici un de mes amis qui prépare le terrain en Haïti, c'est Patrice Derouche. À côté, vous avez un évangéliste haïtien avec qui je vais travailler dans 15 jours. À côté, vous avez à gauche un ministère prophétique qui vient du Canada. Donc souvent, nous travaillons ce qu'on appelle en équipe de ministère, avec quelqu'un qui a un ministère apostolique, c'est-à-dire davantage d'implantation d'église, un autre qui a un ministère plus prophétique, un pasteur, un évangéliste. Et donc, nous travaillons en équipe et nous mettons ensemble nos dons au service de l'église et au service de l'évangile. Et nous travaillons toujours en étroite collaboration, un lien très étroit avec les églises locales. Ici, vous voyez simplement une photo d'un séminaire que j'ai eu à Kinshasa sur le ministère d'évangélistes. C'était au mois de juin dernier. Nous avons eu l'occasion de former plus de 100 pasteurs, aumôniers, évangélistes, et ça représentait une cinquantaine unions d'églises. Donc c'est vraiment chouette, dans la République démocratique du Congo. Donc c'est l'occasion de pouvoir former ces personnes-là, parce qu'en Afrique, est évangéliste, celui qui est évangéliste, comme je disais aux amis avec qui j'ai dîné tout à l'heure, eh bien celui qui est évangéliste en Afrique, c'est un sous-pasteur. C'est celui qui n'a pas vraiment réussi les études, qui n'a pas vraiment le niveau. Donc souvent, on va l'appeler évangéliste. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est ce qu'on rencontre. On a remarqué que les évangélistes ne sont pas forcément bien formés. On a remarqué aussi que beaucoup de pasteurs ne sont pas à leur place, qu'ils sont plus évangélistes que pasteurs. Mais puisqu'ils ont besoin d'argent et puisqu'il n'y a pas de structure qui existe, ils vont être nommés pasteurs. Et lorsqu'on discute avec eux, lorsqu'on voit leur vision, ils s'ennuient à mourir dans leur église. Parce que leur appel n'est pas d'être pasteur, même s'ils sont capables de s'occuper du troupeau, mais ils sont avant tout évangélistes. Donc l'objectif, c'est de leur apporter non seulement une formation, de comprendre leurs problématiques et de réfléchir avec les représentants des différentes unions d'églises pour voir s'il n'y a pas la possibilité de créer une association, une structure parallèle qui va permettre d'encadrer ces ministères, de les soutenir spirituellement, de les soutenir financièrement et de leur permettre de développer leur ministère dans de bonnes conditions. Et là, c'est merveilleux parce que les portes s'ouvrent et parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Et puis à côté de cela, nous avons aussi souvent des campagnes d'évangélisation qui se déroulent bien sûr le soir, en plein air. Donc là, vous voyez, ça c'est la place des Gonaïves où j'irai dans 15 jours en Haïti. Nous pouvons mettre jusqu'à 20 000 personnes. C'est là qu'a été déclarée l'indépendance d'Haïti en 1804, le 1er janvier 1804, Haïti étant la première république noire au monde à avoir pris son indépendance. Et donc, c'est des campagnes d'évangélisation, croisades, comme ils appellent cela, mais ça entre parenthèses, guillemets, tout ce que vous voulez, surtout dans notre contexte français, mais c'est ainsi qu'on appelle les choses là-bas. Donc, des réunions d'évangélisation qui durent généralement minimum une semaine. En Haïti, c'est 15 jours. J'y suis allé en 2005, on avait une campagne d'une semaine et les gens ils m'ont presque engueulé parce que c'était trop court. Bon, voilà, un contexte tout autre. Et puis en Afrique aussi, nous avons des réunions, parfois des grandes réunions, comme vous le voyez ici, au Théâtre de l'Amitié, c'était à Bobo-Dioulasso. Et nous sommes aussi dans des endroits, parfois en brousse, comme je disais aux amis tout à l'heure, beaucoup plus simples. On monte un podium, on installe la sono, il y a le courant qui est produit par une génératrice. Et puis on chante, les églises qui sont là viennent, et puis on annonce l'évangile. On a fait les appels, on prie pour ceux qui sont malades ensuite, et puis après on va passer un film et chrétien, et puis c'est l'occasion encore aux personnes de poursuivre la soirée. Donc ça c'est un tout petit aperçu de mon ministère. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que ça fait partie normalement de tout un autre montage où je présente mon ministère à l'étranger. Revenons à nos moutons. Ça va ? Ah, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Courtement. France Évangélisation, c'est aujourd'hui 4 évangélistes à plein temps, mais notre objectif, c'est de développer aussi l'association. Et c'est pour cela que nous avons initié, il y a maintenant un an, ce qu'on appelle les évangélistes associés. Les évangélistes associés, ce sont des personnes qui ont cette fibre d'évangéliste, avec un accent fort pour la prédication des hommes, mais aussi des femmes, puisque nous sommes aussi ouverts au ministère féminin de ce type. Et donc des personnes qui ne sont pas forcément à plein temps, des personnes qui travaillent, qui sont engagées dans la vie associative et autres, mais qui cherchent une structure qui va leur permettre de développer leur ministère, de pérenniser leur activité. Et nous avons accepté 9 évangélistes récemment, 8 hommes et une femme, donc qui sont là. Alors, qu'est-ce que nous leur proposons ? Nous, en tant que France Évangélisation, nous leur proposons de les rencontrer une fois par an déjà. Au cours de l'année, nous leur proposons aussi de les suivre, donc une relation de mentoring, à partir du moment où eux sont ouverts, bien sûr, et ont envie d'aller plus loin à ce niveau-là. Et puis, ce que nous leur proposons aussi, c'est de nous accompagner lorsque nous organisons des manifestations, que ce soit de l'enseignement, mais aussi des campagnes d'évangélisation ou autres, pour que eux puissent venir se joindre. Et si eux, de leur côté, organisent quelque chose, nous sommes là aussi pour pouvoir les aider et les soutenir. Donc, pour qu'il puisse y avoir une relation. Et en même temps, elles bénéficient, je dirais, du label de notre association et d'un suivi et de contact tout au long de l'année. Et ainsi, cela permet de démultiplier notre ministère. Parce que nous pensons qu'il est important, non pas d'avoir une tête d'affiche, mais d'avoir, au contraire, beaucoup de ministères d'évangélistes. Et en plus, des ministères d'évangélistes très différents les uns des autres. Il y en a un qui va travailler parmi les enfants, un autre qui va travailler parmi les personnes âgées, un autre qui va chanter, un autre qui va travailler dans le cadre de l'aumônerie, un autre qui aura une fibre davantage d'apologète. Donc différents profils de ministères d'évangélistes, avec quand même toujours cette annonce de la parole qui reste au cœur et qui est la spécificité de notre association. Donc voilà, ça c'est France Évangélisation aujourd'hui, une association, nous sommes reconnaissants, qui se développe et qui reste toujours avec cette vision d'annoncer en priorité l'évangile en France. Et puis aussi, nous nous étendons en francophonie, puisque un des évangélistes associés qui a été accepté, c'est mon ami Daniel Nassa, qui prépare, qui organise toutes mes campagnes au Burkina Faso, et qui est en train de terminer son master à Vaux-sur-Seine, et qui fait partie des Assemblées de Dieu au Burkina. Si vous voulez en savoir plus sur l'association, venez me voir ou rendez-vous sur le site de France Évangélisation. www.france-évangélisation.com. Merci. Ça marche ? Nous allons prier. Notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que ton œuvre est belle, parce que ton œuvre est grande et parce que aujourd'hui, Seigneur, tu es présent partout sur toute la surface de la terre. Seigneur, merci aussi parce que tu es avec nous ce soir. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu veux encore te révéler à nous. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci pour le souffle que tu nous as donné. Seigneur, nous sommes contents de vivre, nous sommes contents d'exister, nous sommes contents de te connaître. Nous sommes contents, Seigneur, d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir une église. Nous ne voulons pas regarder à ce que nous n'avons pas, à ce que nous souhaitons. Nous voulons ce soir regarder déjà tout ce que tu nous as donné, Seigneur, à qui nous sommes. Nous te remercions pour l'existence que tu nous as accordée. Te remercions pour la vie que tu as déposée en nous et que tu continues de nous accorder. Éclaire, dirige, conduis encore ce temps. Accorde-nous ta pensée, ta direction, dans le précieux nom de celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce soir. Est-ce que je peux savoir qui n'était pas là cet après-midi et qui assiste juste à la rencontre de ce soir? Ok, c'est pas mal de personnes. Soyez les bienvenus. Donc, un bref récapitulatif pour ceux qui étaient présents cet après-midi. Nous sommes dans un week-end autour du thème du Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai précisé que parler du Saint-Esprit est une chose finalement très difficile. Et un évangéliste qui parle du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça va donner? On se pose des questions quand même. Normalement, son ministère premier est d'annoncer l'évangile, de former à l'évangélisation. Pourquoi parler du Saint-Esprit? Eh bien, parce que le Saint-Esprit est l'agent de la mission. Et lorsqu'on est évangéliste et lorsqu'on est chrétien, on s'intéresse pas simplement au Père, au Fils, mais aussi au Saint-Esprit. Je disais aussi tout à l'heure que parler du Saint-Esprit, c'est difficile parce que l'Esprit, nous ne le voyons pas. Le Père, on a tous plus ou moins une représentation parce que nous avons tous un papa. Ensuite, le Fils s'est incarné. Par contre, parler de l'Esprit, c'est beaucoup plus difficile. Et l'Esprit a toujours un côté un peu mystérieux. En plus, lorsque nous parlons de l'Esprit, nous pensons peut-être à certaines dénominations, à certaines églises que nous avons côtoyées, où nous connaissons certaines personnes, nous avons eu des expériences bonnes ou mauvaises. Et j'ai souvent remarqué que le Saint-Esprit, chez les chrétiens, fait un peu peur aux chrétiens. Il y a une certaine crainte du Saint-Esprit. Je dirais la seule crainte que nous devrions avoir de l'Esprit, c'est comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que l'Esprit est saint. Et par conséquent, il est important de le considérer comme une personne. J'ai dit qu'il méritait notre adoration au même titre que le Père et le Fils, et que lorsque nous adorons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons vu que l'Esprit est une personne, nous avons vu aussi que l'Esprit est saint, et que par conséquent, il y a deux choses qui peuvent le déranger, selon l'Écriture, les données que nous avons eues tout à l'heure, c'est d'une part le péché, parce qu'en péchant, littéralement, comme le dit le texte grec, nous rendons malade le Saint-Esprit. Et d'autre part, ce qui attriste, non pas ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé comme autre mot ensuite ? Le premier, c'était attrister, rendre malade le Saint-Esprit. Et le deuxième, étouffer. Merci. Je vois qu'il y en a qui suivent. On disait Coluche, il y en a 5 qui suivent. Il y en a plus. Et étouffer le Saint-Esprit se produit lorsque nous négligeons, selon 1 Thessaloniciens 5, les dons de l'Esprit et en particulier la prophétie. Nous avons vu comment la prophétie se manifeste aujourd'hui. La prophétie, souvent, nous avons une image de celui qui se lève. Nous accorder une sorte de statut quasi magique ou surnaturel au prophète, alors que nous avons vu que la prophétie est quelque chose de beaucoup plus simple, de naturel et qui devrait s'exercer de manière toute simple et naturelle dans le cadre de l'Église, et ce qui est le cas dans bien des assemblées. Et parfois, nous prophétisons sans même nous en rendre compte, parce que nous voyons que cela porte du fruit et répond exactement à des besoins, à des questions que les personnes se posent. Alors ce soir, j'aimerais poursuivre cette réflexion par rapport au Saint-Esprit. Et le thème de mon message est le suivant, vous recevrez une puissance. Question pour des champions. Qu'avons-nous fait du Saint-Esprit ? Cette question, je l'ai lue une fois dans un article. Et cette question m'a interpellé parce que l'auteur soulignait entre autres que aujourd'hui nous avons mis le Saint-Esprit en conserve. On l'a mis en quelque sorte en boîte. Et il soulignait le fait suivant que le Saint-Esprit, et pourtant c'était un évangélique très très classique qui disait cela, que nous avons enfermé le Saint-Esprit dans des livres de doctrine, dans des ouvrages théologiques très bien rédigés, dans toutes sortes de confessions de foi qui sont bien formulées, dans la confession de foi dans notre Église. Et ainsi, nous nous sommes protégés contre tout excès, contre tout ce qui pourrait nous déranger, nous déstabiliser. Mais ce faisant, soulignait-il aussi, et je suis d'accord avec lui, nous avons étouffé la voix de l'Esprit de Dieu. Lorsque je lis l'Écriture, en tout cas la lecture que j'en ai, l'Écriture met l'accent non pas sur une doctrine froide et rigide du Saint-Esprit. La doctrine est importante, mais comme le faisait remarquer quelqu'un, les textes de doctrine constituent entre 10 et 12% de l'Écriture, et tout le reste, ce n'est pas de la doctrine, tout le reste, ce sont des histoires qui racontent de la vie. Et comme le disait quelqu'un, l'Écriture met avant tout l'accent, non pas sur une doctrine froide, rigide, stérile, mais avant tout sur la vie de l'Esprit-Saint. Ce qui compte, ce sont les relations. Ce qui compte, c'est de vivre quelque chose, bien sûr, qui soit en adéquation avec ce que l'Écriture nous donne. Avant d'aller plus loin, je vous propose un texte qui va nous guider. Alors ce soir, on ne va pas piocher dans les épîtres, dans les textes qu'on utilise souvent pour établir la doctrine, mais ce soir, on va prendre un livre qui est le livre bien connu du livre des Actes. Et à partir de ces quelques versets que je vais lire, et d'autres aussi qu'on retrouve au long de ce livre, eh bien, j'aimerais tirer quelques enseignements qui viendront compléter ce que j'ai dit cet après-midi et ce que nous verrons demain matin lorsque nous aborderons la question des dons de l'Esprit. Acte 2, nous allons lire à partir du verset 14. Donc, dans les versets 2 à 1, il y a l'Esprit Saint qui est répandu, certains qui vont se moquer de ceux qui sont là, qui sont remplis du Saint-Esprit, et qui vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont sous, ils ont bu. Et Pierre va leur dire ceci lorsqu'il va se lever. Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. » Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres, mais pas du tout, il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Et voici ce qu'il avait dit. Voici ce qui arriva, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut, dans le ciel et sur, en bas sur terre, des signes prodigieux, sang, feu, colonne de fumée, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux, alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. On se croirait dans 2012, pour ceux qui l'ont vu. Moi, je suis allé le voir mardi soir, c'est pas mal. Ça interpelle. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé, ou qu'il l'a prouvé plutôt en accomplissant par son moyen, au milieu de vous, des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré en vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Et puis il va poursuivre ensuite son discours. Donc à partir de ce texte et de d'autres passages qu'on m'a cités tout à l'heure, j'aimerais souligner quelques points ce soir par rapport à cette question de l'Esprit et du fait qu'il veut nous communiquer sa puissance. Première chose que j'aimerais dire. Mes amis, nous vivons des temps qui sont extraordinaires. Et moi, je le dis souvent, partout où je vais, je crois que nous vivons certainement les temps les plus intéressants d'une bonne partie de l'histoire de l'Église. J'allais dire de toute l'histoire de l'Église, mais comme on ne sait pas toujours tout ce qui s'est passé et qu'on n'était pas là avant, on ne va pas se croire au-dessus, mais nous vivons des temps qui sont extrêmement intéressants. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays, des continents entiers qui sont visités, qui sont balayés par le souffle puissant de l'Esprit de Dieu. Et la prophétie de Joël se réalise tout doucement. Il y a des pays qui comptent beaucoup de chrétiens. Par exemple, au Burkina Faso, où je vais régulièrement, on estime qu'il y a actuellement, ce sont les chiffres les plus bas, au minimum 9% de chrétiens. Imaginez 9% de chrétiens, c'est un chiffre qui est déjà très très intéressant. L'évangile est présent partout, surtout à la capitale, à Ouagadougou. Vous organisez une campagne d'évangélisation à Ouagadougou, comme c'était le cas en décembre dernier, en plein air. Vous avez des musulmans qui viennent, des gens, ils viennent, ils se convertissent à l'appel. C'est impressionnant. Tout ça parce que l'évangile a été répandu, parce que l'Esprit-Saint a travaillé déjà avec tout ce qui a été semé. Vous avez l'assemblée principale des assemblées de Dieu qui compte pratiquement 2000 personnes, où j'ai prêché le dimanche matin, qui compte le premier ministre qui est là-bas. Il y a trois autres ministres du gouvernement qui sont présents, le chef de la police qui est là. J'étais au Bénin au mois de mars. Le président aussi est un chrétien, et un chrétien qui apparemment, d'après les dires des pasteurs avec qui j'ai travaillé, tient la route, et non pas quelqu'un de farfelu, comme c'est parfois le cas. Il y a beaucoup de pays d'Afrique où on voit le nombre, le pourcentage de chrétiens qui grimpe et qui grimpe. La même chose est vraie en Amérique du Sud. La même chose est vraie en Haïti. On estime que jusqu'à 30% de la population évangélique est chrétienne. Alors bien sûr, dans cela, vous avez à boire et à manger. Il y en a, vous avez vu, vous allez comprendre qu'ils n'ont pas saisi l'essentiel du message. Mais néanmoins, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Et de temps en temps, comme je le dis, surtout à ceux qui sont ici, qui n'ont pas l'occasion de voyager, comme c'est mon cas, de temps en temps, c'est bien, vous prenez un ticket à Air France, ou alors vous le prenez spirituellement, je ne sais pas comment vous faites, mais vous vous élevez un petit peu, vous prenez l'avion, puis vous montez à quelques kilomètres, et puis vous allez regarder un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Et vous serez étonné, surpris de cette réalité. On estime qu'il y a aujourd'hui 1,9 milliard de chrétiens sur Terre. Alors quand je dis 1,9 milliard de chrétiens, les évangéliques, les catholiques et les protestants. Mais si on prend juste la branche évangélique, ça représente entre 500 et 550 millions de chrétiens évangéliques dans le monde. C'est pas mal quand même. Bien sûr, il y en a qui verront toujours noir, qui vont vous dire « Ah oui, mais là-dedans, est-ce qu'ils croient bien comme nous? Est-ce qu'ils font bien ceci? Est-ce qu'ils ont la même doctrine? Est-ce qu'ils ont la même confession que nous ?» Dieu s'y reconnaîtra, ce n'est pas à nous de juger, même si on a le droit d'apporter une appréciation et qu'on a le droit, bien sûr, de ne pas être d'accord avec tel mouvement ou tel autre. Et puis, ce qui est très étonnant aussi, simplement pour votre information, c'est que la grange pentecôtiste charismatique représente entre 200 et 250 millions, certains pensent même plus, de tout ce mouvement. Certains sont même étonnés, surtout lorsqu'on considère, par exemple, la partie pentecôtiste, qui a commencé à zéro en l'an 1900, puisque c'est né aux alentours du début du XXe siècle, le pentecôtisme. Et c'est d'ailleurs le théologien américain Harvey Cox qui parle du pentecôtisme comme d'une nouvelle réforme ou comme le christianisme de demain. Donc tout ça pour souligner que toute la mouvance évangélique aujourd'hui grandit et se développe. Bien entendu, nous devons veiller. Et pour avoir été récemment à Kinshasa, je peux vous dire qu'il y a de bonnes choses, mais il y a aussi du n'importe quoi. Avec des apôtres, avec des prophètes qui se lèvent, qui prêchent que des signes, des miracles et des guérisons, qui prêchent uniquement l'évangile, qui prêchent que l'évangile de la prospérité, qui finalement n'annoncent plus du tout l'évangile. Et lors du séminaire d'évangélistes que j'ai donné à Kinshasa, il y a la femme d'un pasteur connu qui est venue me voir, à qui Dieu a mis à cœur de commencer une nouvelle église, et elle vient me voir à la fin du séminaire des 3 jours, elle me dit, vous savez, je suis content parce qu'au cours de ce séminaire, j'ai compris que c'est l'évangile que je dois annoncer. Ça paraîtrait peut-être évident pour nous, mais pour eux, il y a une telle emphase qui est mise sur les signes, les miracles, les prodiges, qu'il y en a qui n'annoncent plus que ça et qui ne parlent même plus de l'évangile. C'est plus l'évangile. Je dis, mais je suis content que vous ayez compris cela. Hein, vous annoncez l'évangile et le Seigneur, il vous donnera aussi le reste. Si c'est dans son plan pour vous, vous ne vous inquiétez pas pour ça. Donc tout ça pour dire qu'il y a de bonnes choses, mais aussi des choses qui sont parfois moins bonnes. En tout cas, il y a un fait qui est certain, c'est que nous pouvons nous réjouir aujourd'hui parce qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens nés de nouveau, vivant en même temps sur terre. Et il semblerait, selon certaines personnes, qu'il y ait même eu, au cours du XXe siècle, ce qu'on peut appeler une accélération, une intensification du mouvement de l'esprit, ce qui a fait dire à certains que le XXe siècle a été le siècle du Saint-Esprit. En tout cas, à travers tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui dans le monde, et quand nous étudions le christianisme, vous savez, il est bon de prendre pas simplement, il est bon de regarder ce que nous vivons en France. Et bien sûr, en France, souvent, on est jaloux, on se dit, mince alors, et nous, on ne vit pas grand-chose, chez nous, ça ne bouge pas. Si, chez nous aussi, ça bouge. Il y a aussi des choses que Dieu nous donne, et qu'il nous prépare certainement pour quelque chose de plus grand qui, nous l'espérons, viendra. Mais chez nous aussi, les choses bougent. Et puis, de temps en temps, c'est bien aussi de s'élever et de regarder ce que Dieu est en train d'accomplir dans le monde. Et il y a de belles choses, et il y a de bonnes choses qui se passent actuellement. Et pour tout cela, nous pouvons nous réjouir. Nous avons là un signe évident de la fin des temps, puisque Dieu dit « dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit ». Juste un rappel, les derniers temps commencent quand ? Les derniers temps commencent avec la venue de Jésus-Christ. Les derniers temps commencent lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, lorsqu'il a inauguré le royaume de Dieu, lorsqu'il est mort à la croix, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est monté au ciel et lorsqu'il a envoyé son Esprit Saint. Maintenant, dans ces jours, nous dit Hébreux 1, verset 1, qui sont les derniers, c'est par son Fils que Dieu a parlé. Et donc, nous sommes dans ces derniers temps. Et cette prophétie de Joël 2, verset 28 à 32, qui est citée dans Acte 2, est une prophétie qui est en train de se réaliser. Une prophétie qui inaugure la fin des temps. Cette prophétie s'est réalisée le jour de la Pentecôte et elle continue de se réaliser aujourd'hui, elle continue d'être d'actualité. Alors le jour de la Pentecôte, que se passe-t-il ? Eh bien, une effusion initiale de l'esprit qui va avoir des conséquences. Et la principale de ces conséquences, c'est le fait que l'évangile va se répandre comme une traînée de poudre. Et en l'espace de quelques mois, de quelques décennies, de quelques années, l'évangile va être répandu partout. Des dizaines, des centaines, des milliers d'églises locales vont voir le jour. Ça, c'est la conséquence directe, mes amis, du fait que l'Esprit de Dieu a été répandu. Et que l'Esprit de Dieu a boosté, a transformé, ou comme le dit ce prêtre, a transdynamisé les chrétiens, a littéralement changé leur vie. Des personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup d'instruction ou qui avaient de l'instruction, grâce à l'effusion du Saint-Esprit, à la découverte du Christ vivant et ressuscité et de son esprit qui agit dans l'Église aujourd'hui, ont vu leur vie changer et à leur tour ont pu changer l'existence d'autres personnes. Ça, c'est un grand, 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 grand miracle. Et on sait aujourd'hui, parce que les historiens nous le disent, que l'Évangile s'est répandu non pas par des professionnels, des types de ministères comme le mien, mais l'Évangile s'est répandu avant tout, ce sont les pères de l'Église qui nous le disent, par des chrétiens tout simples, des anonymes, dont l'histoire n'a pas gardé le nom. Ce sont eux qui ont été transdynamisés, visités par le Saint-Esprit, et qui sont partis et qui partout ont annoncé l'Évangile. Certains étaient bien formés, d'autres peu, mais ils ont donné ce qu'ils avaient, tout simplement. Donc la venue de l'Esprit est un acte, un événement fondamental, essentiel. Et comme je le disais, la prophétie d'Acte 2 continue aujourd'hui de se réaliser. Ce qui est dommage, c'est que les médias n'en parlent pas. Bien sûr, les médias vont parler de la poussée de l'islam, ou alors ils vont prendre un épiphénomène, quelque chose qui se passe dans un endroit qui finalement ne concerne que 200, 300, 500 ou 1000 personnes, ce qu'on appelle vraiment un épiphénomène, et puis ils vont monter ça en épingle, ils vont montrer ça dans les médias, à tel point qu'on a l'impression que ça concerne toute la population française, toute l'Europe ou le monde entier, alors que finalement, si on regarde bien, ça ne concerne que quelques individus ou quelques milliers d'individus, mais comparé à des millions, à des centaines de millions de personnes, c'est absolument rien du tout. Donc on parle facilement de la poussée de l'islam, mais seulement ce qu'on oublie de dire, c'est que la branche religieuse, entre guillemets, qui grandit le plus aujourd'hui, et ça il y a plusieurs études qui ont été menées et qui apparemment vont dans le même sens, c'est la mouvance chrétienne, et en particulier la mouvance chrétienne protestante évangélique. Revenons au livre des Actes. J'aimerais souligner quelques points par rapport à cette venue de l'Esprit. Premier aspect, selon les Actes, et en particulier selon le passage que j'ai lu précédemment, l'Esprit est d'abord un don personnel à recevoir, à vivre, à expérimenter. Acte 2, verset 3, au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches, elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Ça veut dire que tout le groupe qui était présent, pas simplement les apôtres, mais les 120 qui étaient là, ont tous reçu leur part de l'Esprit. Personne n'a été mis de côté. Le Saint-Esprit n'a pas simplement été donné aux apôtres, et comme je disais tout à l'heure, et je le redis pour ceux qui n'ont pas assisté au premier enseignement, l'Esprit Saint n'est pas simplement destiné à des ministères particuliers, il n'est pas non plus destiné à une certaine catégorie de personnes, comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance, aux prophètes, aux rois, à ceux qui avaient charge ou en charge de construire le tabernacle ou autre, mais le Saint-Esprit était disponible pour chacun. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, au chapitre 2, et puis ensuite, dans la suite du récit, nous voyons dans Acte 2, 42, là aussi, d'autres personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, les 3000 qui ont tous reçu l'Esprit. Alors le texte biblique ne nous le dit pas expressément, mais tous ceux qui étaient là ont vécu cette expérience. Dans Acte 8, il y a l'épisode des Samaritains, Acte 8, versets 14 et 15, pour ceux qui prennent des notes, eux aussi, tous, vont recevoir l'Esprit Saint. Acte 9, au verset 17, c'est l'apôtre Paul qui lui aussi vit cette expérience. Acte 19, versets 1 à 7, lorsque on annonce l'Évangile aux Éphésiens, eh bien, eux aussi reçoivent tous, individuellement et particulièrement, l'Esprit Saint. Et c'est ainsi que s'accomplit la prophétie d'Acte 2, 17, c'est-à-dire que l'Esprit sera répandu sur toute chair. Donc pas simplement pour les Juifs, mais aussi pour les païens, jusqu'au loin. Et le plus loin à cette époque-là, ça représentait Éphèse, qui représentait le plus loin le reste du monde. Donc ça c'est le premier point qu'on voit. Deuxième chose qui est mise en évidence, toujours dans les Actes, l'Esprit Saint est un merveilleux cadeau. Et c'est certainement le plus beau cadeau que Dieu peut nous accorder. Vous vous rappelez certainement de cet épisode de Acte 8, l'Esprit qui est communiqué aux Samaritains, et il y a Simon le magicien qui est là, qui voit cela, qui le voit. Ils voient que l'Esprit est communiqué, certainement parce qu'il y a eu des prophéties, ils ont parlé en langue, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, il va leur demander que lui aussi, il aimerait bien qu'on lui impose les mains pour qu'il reçoive l'Esprit Saint. Et Pierre va réagir très violemment et il va lui dire, écoute, c'est pas avec de l'argent que tu vas pouvoir acquérir le don de Dieu. Et à travers ça, il y a une grande vérité qui nous est communiquée, que nous avons besoin aussi de nous rappeler aujourd'hui, c'est que le don du souffle de Dieu est gratuit. L'idée ne nous viendrait jamais de payer, à nous autres évangéliques, puisque nous avons été bien enseignés là-dedans. Mais peut-être que l'idée nous viendrait de dire que si nous pratiquons de bonnes œuvres, si nous faisons ceci ou cela, le Seigneur va nous donner quelque chose en plus. Si nous prions beaucoup, si nous jeûnons beaucoup, peut-être que le Seigneur va nous visiter d'une manière particulière. Alors je crois que dans la prière, je crois que dans le jeûne, Dieu peut aussi nous accorder un renouvellement. Mais si nous le faisons dans cet esprit-là pour soutirer quelque chose au Seigneur, et en espérant que parce que on va tirer le Seigneur, on va l'embêter un petit peu, il va nous donner quelque chose, c'est que nous n'avons rien compris. Le souffle de Dieu est gratuit. Et Dieu nous le donne simplement à celui qui demande, à celui qui a besoin d'être renouvelé. Et Dieu le donne à des êtres humains, comme je le disais cet après-midi, qui sont pécheurs, qui sont imparfaits. Si souvent nous nous sentons indignes, et c'est bien de se sentir indigne, mais en même temps, parfois, nous avons même peur de demander au Seigneur. Parce que nous nous disons au fond de nous-mêmes, Seigneur, si tu voyais vraiment mon cœur, enfin, tu le vois, mais avec mon cœur, avec ce que je vis, avec la manière dont je me comporte parfois avec les autres, qui suis-je, moi, pour te demander ton précieux souffle ou le renouvellement de ton précieux souffle dans ma vie ? C'est justement à des êtres tels que nous sommes, pécheurs, mais graciés, pardonnés, à qui Dieu veut communiquer son souffle. C'est en nous que Dieu veut faire sa demeure, qu'il fait sa demeure et qu'il continue d'habiter. Il y a là certainement, comme je disais cet après-midi, un des plus beaux mystères et un des plus grands mystères qui existent. L'Esprit de Dieu est un don gratuit que Dieu donne et nous ne pouvons absolument rien faire pour le recevoir. Si ce n'est ouvrir nos mains et dire « Seigneur, eh bien, j'en ai besoin ». Et très souvent, dans l'exercice de mon ministère, je suis là par rapport à des défis, par rapport à des réunions, et je me sens comme nu. Je dis « Seigneur, voilà, il y a tant de personnes qui attendent de recevoir quelque chose, tant de personnes, il y a tant de défis spirituels, des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, des gens qui ne sont pas encore convertis, des gens qui souffrent. Eh bien, moi, je suis qu'un petit évangéliste, qu'est-ce que moi je peux faire ?» Et je me mets à genoux et je dis, Seigneur, voilà, je viens devant toi, les mains ouvertes. Renouvelle-moi, communique-moi à nouveau ton souffle de vie. Je ne peux rien faire pour le recevoir, si ce n'est simplement te demander. J'ai besoin de ta puissance pour accomplir ton œuvre. Quelle folie, mes amis, de croire que nous pouvons nous passer de la puissance de Dieu pour accomplir le ministère que Dieu nous donne. Le ministère que Dieu nous donne n'est pas un ministère théorique, même si la théorie compte. Le ministère que Dieu nous donne est un ministère spirituel. Ce n'est qu'avec des armes, qu'avec la puissance de Dieu que nous pouvons accomplir ce ministère. Et Dieu la donne à tout le monde. Alors bien sûr, la grande question qui se pose et que je ne veux pas éluder ce soir, même si je ne veux pas non plus rentrer trop en profondeur, c'est de savoir quand recevons-nous ce cadeau ? Quand recevons-nous l'Esprit ? C'est une grande question qui fait encore débat dans nos milieux évangéliques et autres aussi. On ne va pas parler du côté protestant et catholique, sinon on va embrouiller la chose. Restons déjà dans notre direction évangélique, parce que sinon là, ça va être la foire fouille, on ne va plus s'en sortir. Il y a les uns qui affirment que la nouvelle naissance, la conversion constitue le baptême du Saint-Esprit, alors que pour d'autres, le baptême, ce qu'on appelle baptême du Saint-Esprit, constitue une expérience distincte de la nouvelle naissance. Alors que faut-il penser de tout cela ? Première chose que j'aimerais souligner par rapport à cette question, c'est que là où nous sommes normalement tous d'accord, et avant de voir ce qui nous divise, il faut déjà voir ce qui nous unit. C'est plus positif, comme disait je ne sais plus quel théologien. Avant de regarder ce qui nous divise, regardons déjà ce qui nous unit. Il y a parfois plus de choses qui nous unissent que celles qui nous divisent. Eh bien, ce qui nous unit, et Dieu merci, c'est que tout le monde est d'accord pour affirmer que celui ou celle qui s'est repenti de ses péchés a accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est présent en lui. L'Esprit de Dieu est présent en elle. C'est Romain qui nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, et l'Esprit de Christ c'est l'Esprit Saint, puisqu'il n'y a pas 36 000 esprits, enfin si, il y en a beaucoup, mais il n'y a qu'un esprit, celui de Dieu, l'Esprit Saint. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc la question est réglée. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas sauvé. C'est aussi simple que cela. Donc là, nous sommes tous d'accord. Maintenant, il y a ceux qui disent « oui, nous sommes tous d'accord là-dessus », et puis d'autres qui disent « eh bien oui, nous sommes d'accord là-dessus ». Alors les uns qui disent « cette expérience initiale de l'Esprit, le fait que l'Esprit est là, constitue le baptême du Saint-Esprit, donc plus besoin de vivre ou d'attendre quelque chose d'autre ». Et puis il y a les autres qui disent « non, ça, ça ne constitue pas le baptême du Saint-Esprit ». Là, tu deviens enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est présent, et par la suite, tu as besoin de vivre une autre expérience. Alors on va parler de baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui vont parler d'être plongé dans l'esprit. Il y a différentes significations, différents termes qui existent, mais finalement ces différents termes qui existent signifient plus ou moins la même chose. Une fois encore, je crois que si nous restons à ce niveau-là, dans des discussions, eh bien nous risquons de passer à côté de ce qui est important, nous faisons fausse route. L'Écriture met davantage l'accent sur la vie et sur le fait d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Chez certains, moi c'est ce que j'ai pu remarquer avec tous les entretiens que j'ai dans le cadre de mon ministère, chez certains, en même temps qu'ils se convertissent, ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit, il y a un baptême, une effusion de l'Esprit qui se manifeste. Et puis d'autres, c'est ce qu'ils ont vécu, ils ont vécu cela quelques semaines ou quelques mois après, comme ce jeune que j'ai conseillé, qui avait des problèmes d'ordre occulte là récemment, et qui lui était chrétien depuis un certain temps, et qui un jour, tout seul, alors qu'il fait partie d'une église très classique, un soir il était chez lui et il priait le Seigneur, et vraiment il avait le désir dans son cœur de vivre un renouvellement avec le Seigneur, et là il s'est passé quelque chose à laquelle il ne s'attendait absolument pas, qu'il n'a même pas recherché. Le Saint-Esprit est venu le visiter d'une manière qu'il n'avait jamais vécue auparavant. Pourtant, il était né de nouveau, l'Esprit était déjà présent en lui, et il a été rempli comme immergé, plongé, dans la présence du Seigneur, et ça a été une nouvelle découverte, une découverte qui l'a même qui a surpris ce jeune homme. Donc pour moi l'essentiel c'est de pas vouloir convaincre les autres que nous avons raison. Moi je pense que ce que nos frères charismatiques ou pentecôtistes vivent est vrai et juste dans la majorité des cas. J'avais un de mes professeurs à Nogent qui disait « mais oui, c'est bon ce qu'ils vivent ». Mais il disait, mais pourquoi s'arrêter à une expérience ou à deux expériences? Pourquoi ne pas chercher davantage? Parce que la difficulté, c'est que lorsqu'on s'arrête à une expérience avec le Seigneur, après, on va en faire toute une doctrine. On va dire, voilà, il faut être de nouveau, né de nouveau. Après, il faut cette expérience-là et il faut que ça se passe de cette manière-là. Le problème, c'est que l'Esprit de Dieu souffle où il veut, c'est ce que nous dit Jean 3, verset 8. Où il veut, comme il veut et quand il veut. Et par conséquent, il fait comme il veut. L'essentiel, c'est de savoir c'est que nous sommes enfants de Dieu, que l'Esprit de Dieu est présent en nous, en tous ceux qui ont vécu la repentance et la foi, c'est clair. Et l'essentiel, c'est de savoir que nous avons besoin aussi de la puissance du Saint-Esprit. Alors si nous vivons cela au moment de notre conversion, gloire à Dieu, alléluia. Et si nous vivons cela après, eh bien gloire à Dieu, alléluia aussi. L'essentiel, c'est d'être plongé, immergé, dans la présence du Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsque l'Écriture, notez cela, parle d'être baptisé du Saint-Esprit, le verbe qui est utilisé, et ça c'est intéressant, signifie immerger, plonger, comme lorsque vous baptisez quelqu'un. Vous baptisez par immersion, je pense, ici. Oui ? Excellent. Plouf, hein ? Ouf, ouf, ah ouf, d'accord. Ouf, j'ai compris, plouf. On peut dire les deux, plouf et ouf. Ouf, il respire, quoi. Donc, la personne est plongée, et elle est entièrement revêtue, immergée. Et c'est ça le baptême de l'Esprit, c'est être plongé, immergé, pleinement dans la personne du Saint-Esprit. Et j'en dirai encore quelques mots tout à l'heure par rapport à cela. Et puis j'aimerais aussi attirer votre attention sur un autre fait. Selon l'enseignement biblique, et c'est là certainement le plus important, le don du Saint-Esprit est une expérience à renouveler. C'est pour cela que je disais il y a quelques instants et que je redis qu'il ne faut pas se focaliser, vouloir convaincre les autres. Eh bien non, c'est nous, c'est notre expérience. Nous, il y a une expérience après la conversion, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et puis ils en parlent, ça s'est passé il y a 20 ans. Je dis, mais qu'est-ce que tu as vécu depuis 20 ans? T'as été rempli du Saint-Esprit d'autres fois?
Bon, non. Mon vieux, ton truc, c'est pas génial, hein?
Parce que, à mon avis, l'Écriture met l'accent sur le fait que l'expérience du don de l'Esprit est une expérience à renouveler. L'Esprit est présent et en même temps l'Esprit est tellement plus grand que nous que sa présence est toujours à nouveau à accueillir, à recevoir. Et à vouloir trop défendre nos positions, à tout focaliser sur une expérience initiale et à lui donner un nom bien précis, que nous soyons dans un camp ou dans l'autre camp, nous risquons parfois d'oublier que ce qui importe, ce n'est pas ce que nous avons vécu hier, mais ce que nous avons vécu ces derniers jours et ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que si on se repose uniquement sur une expérience passée, si nous nous contentons sur ce que nous avons vécu avec le Seigneur, eh bien, nous sommes des chrétiens passéistes. Comme le dit un de mes amis pasteurs, notre radio préférée, c'est Radio Nostalgie. Il y en a, c'est tout le temps Radio Nostalgie, quoi. Les vieux chants hein, qu'on aimait bien dans notre enfance. Alors c'est bien, moi aussi j'aime bien de temps en temps Radio Nostalgie, mais bon, ce que le Seigneur a fait il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, c'est merveilleux. Ça nous construit, ça nous aide à avancer. Mais il y a de nouvelles expériences, de nouvelles choses à vivre. Vous savez, les disciples de Jésus ont apparemment expérimenté le souffle de Dieu à plusieurs reprises. Dans Jean 20, verset 22, il y a une première expérimentation du souffle de Dieu. Alors elle est assez compliquée. C'est une expérimentation, je dirais, prophétique. Certainement que Jésus donne cela avant de donner plus, un avant-goût peut-être. Jean 20, verset 22, il souffla sur eux et continua à recevoir l'Esprit Saint. Et puis dans Acte 2 ensuite, il y a cette fameuse effusion du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues, etc., selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis ensuite, il y a un autre texte, mes amis. C'est Acte 4. Acte 4, verset 31. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans Acte 4, verset 31 ? Les disciples qui auparavant sont persécutés, ils vont prier, verset 29, « Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Verset 31, « Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » C'est pas beau ça? Entre acte 2 et acte 4, que se passe-t-il? Entre acte 2 et acte 4, décidément, c'est l'opposition. Ce sont les persécutions qui commencent à voir le jour. L'opposition qui se manifeste, on dit aux apôtres maintenant, vous avez assez semé le bins. Vous avez semé la zizanie partout à Jérusalem, on a ras-le-bol, ou Thésée. On les menace, on les persécute, non seulement eux, mais les chrétiens aussi. Et vous savez, entre le moment où nous expérimentons la nouvelle naissance et où nous sommes remplis du Saint-Esprit, et aujourd'hui, il y a des moments dans notre vie où nous aussi, nous ne connaissons pas forcément la persécution, même si ça peut arriver dans le cadre de notre travail, parce que c'est difficile. Récemment, j'étais à Saint-Avold pour une conférence justement sur l'occultisme, pour un enseignement sur le combat spirituel. Et j'ai rencontré une dame, une sœur de 82 ans qui s'est convertie il y a 3 ou 4 ans et qui habite un petit village à côté de Saint-Avold. Et cette dame remarquable, j'ai vraiment été touché par son témoignage. Depuis qu'elle s'est convertie, tout le monde dans son village, tout le monde qui la connaissait, la rejette. Elle est vraiment persécutée. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui s'était converti, qui était passé de l'islam au christianisme. Tout le monde l'a rejeté. Pourtant, ils sont tous catholiques. Hein ? Normalement, quand même, on devrait s'aimer les uns les autres. On a la même Bible, enfin, c'est ce que Jésus a dit. Mais bon, peut-être qu'ils ont zappé ce passage, j'en sais rien. Mais voilà. En tout cas, cette femme est persécutée et pour sa foi. Et malgré cela, il y avait la joie qui était là. Et vraiment, elle vivait quelque chose de terrible. Je dis, mais c'est des fous chez vous là-bas, quoi. C'est impressionnant ce que vous vivez. Vraiment, j'ai une situation, on voit la différence qu'il y a entre ce qu'on peut vivre dans des villes et parfois ce qu'on peut vivre dans certains villages où l'évangile n'a pas été beaucoup répandu et où il y a encore beaucoup de traditions et beaucoup, malheureusement aussi, d'occultisme. Donc, dans notre vie chrétienne, certains vont connaître la persécution, mais nous connaissons des moments de découragement. Enfin, vous, ça vous arrive pas, je crois. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Hein? Ici, jamais découragé. Non, il y a des moments de découragement, il y a des moments où nous en avons marre, il y a des moments où nous avons envie de tout lâcher, parce que rien ne va plus. C'est trop difficile. Il y a des moments aussi où on se dit, mais Dieu, où es-tu? Que fais-tu? Que se passe-t-il? Est-ce que tu sais encore que j'habite là, à ce numéro-là? Est-ce que tu te souviens de moi? Des moments où c'est difficile dans notre vie et nous avons besoin de quelque chose. Eh bien, ce dont nous avons besoin, c'est de vivre aussi une nouvelle expérience de l'esprit, d'être rafraîchi pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Et ce qui est merveilleux et ce qui est bien, c'est que être rempli, être renouvelé dans l'Esprit Saint n'est pas une expérience, mais c'est une succession d'expériences que nous sommes appelés à vivre au cours de notre cheminement spirituel. Remarquez ceci, que Dieu nous donne, non pas pour être pour nous-mêmes, pour être égoïstes. Et aujourd'hui, il y a un problème dans le christianisme, c'est qu'on est devenu trop anthropocentrique. On voit notre propre nombril. Oh, mon nombril, comme il est beau. Et puis on regarde notre nombril, on voit tous nos petits bobos. Et il y en a qui cherchent uniquement à vivre des expériences avec l'esprit, à être renouvelés dans leur propre intérêt. Alors que c'est absolument pas ainsi que l'Écriture conçoit. L'esprit est dynamique. Regardez, quand l'esprit est recommuniqué, lorsque les disciples sont à nouveau remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Ils se sont enfermés dans l'église et puis ils ont prophétisé entre eux, ils se sont encouragés. Non, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc quand l'esprit est souvent donné ou redonné, c'est en lien avec la mission, en lien avec l'évangélisation. Et moi qui suis un peu évangéliste, je peux vous le dire que dans le cadre de l'évangélisation, chaque fois qu'il y a un projet, qu'il y a quelque chose qui tient la route, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est prévu, et là vous priez, là il y a toujours le Saint-Esprit qui va se manifester. L'Esprit qui va vous renouveler, qui va vous remplir, qui va vous donner des dons, parfois des dons sporadiques, juste pour le moment, parce que l'endroit où vous êtes, vous en avez besoin spécialement. Et l'Esprit de Dieu va vous donner quelque chose, parce que c'est en lien avec la mission. Et comme je dis souvent aux gens qui disent « Ah, mais nous, on veut voir des signes, des miracles et des prodiges », alors je leur dis « Alors allez-y, annoncez l'Évangile. » Parce que si vous voulez voir le Seigneur agir, allez dans la moisson. Quand vous allez dans la moisson, là, le Seigneur, il va agir. Là, il y a des choses qui vont se passer. Là, ça va venir tout seul. Parce que la volonté de Dieu, c'est de toucher les gens, c'est de se révéler à eux, c'est de les sauver. Dieu aime les gens bien plus que ce que nous les aimons. Et lui, il veut sauver le maximum. Donc là, il est toujours prêt à se manifester. Bien sûr, dans le cadre de l'Église aussi. Mais le souffle de Dieu nous est donné pour nous-mêmes, déjà pour nous renouveler, mais en lien toujours avec cet objectif de la mission. Ça, c'est important. Et le nombre d'expériences avec le Saint-Esprit, comme disait un de mes professeurs, et pourtant c'est un professeur très, très... classique que j'avais, il me disait, est illimité. Il y en a qui vont vous dire, t'as besoin de vivre une seconde expérience. À ceux qui vous disent cela, eh bien, vous allez leur dire, et toi, t'as besoin de vivre une troisième. Hein? Et c'est cela. C'est pas une, deux ou trois qu'on a besoin. C'est les expériences avec l'Esprit Saint sont illimitées. Donc, ne réduisons pas le Saint-Esprit à une expérience, à deux ou à trois. L'Esprit de Dieu est présent en ceux qui se repentent. Et en même temps, nous avons besoin aussi de sa puissance et d'être remplis parce que Dieu veut nous accorder cela. Allez, encore un point sur lequel j'attire votre attention ce soir. Il s'agit des signes qui accompagnent le don de l'Esprit. C'est intéressant parce que dans tous les passages du livre des Actes qui font mention du fait que l'Esprit a été répandu, lorsqu'une personne est visitée par l'Esprit, cela se voit. Et des fois, la question que je me pose, non pas pour juger qui que ce soit, mais simplement pour réfléchir, est-ce que cela se voit aussi dans nos communautés ? Il y en a qui vont me dire, ah mes frères, chez moi c'est intérieur. Ben, ok, je veux bien croire que Dieu fait des choses à l'intérieur, hein, et que ce qui est important, c'est les transformations que nous vivons intérieurement et qui ne sont pas forcément visibles. Je ne veux surtout pas le sous-estimer. Mais quand même, Lorsque une personne est plongée, j'ai dit que c'était cela, le baptême de l'Esprit, qu'on est rempli, on est plongé, immergé, trempé, leur être intérieur va être rempli. Et quand on est rempli de quelque chose, comme disait Jésus, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est cela. Quand on est rempli de quelque chose, ça va déborder. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les actes, les manifestations finalement de la présence de l'Esprit sont très, très, très diverses. Il y en a qui vont dire, « Oh, si tu parles pas en langue, c'est que tu n'as pas vécu cette expérience du baptême ou que tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit. » Il y en a même qui vont jusqu'à dire encore, il y a quelques irréductibles qui sont encore dans ce schéma-là, malheureusement, qui disent, « Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas l'Esprit. » Ben, mon cher, alors si j'ai pas l'esprit, c'est que j'appartiens pas à Christ. Alors ça, il va pas vous le dire. Donc il y a un petit problème là. Qu'est-ce qui cloche? Donc c'est une erreur de dire que si on est plongé ou immergé dans le Saint-Esprit, tout le monde devrait parler en langue. Même, je ne suis pas contre le parler en langue, bien au contraire. Mais même ceux qui vivent dans les milieux charismatiques ou pentecôtistes, allez voir tous les membres, demandez-leur s'ils parlent tous en langue. Et la réalité n'est absolument pas celle-là. Donc ça va pas. Le livre des Actes nous montre que ces manifestations sont très diverses. Il y en a qui vont parler en langue, il y en a d'autres qui vont prophétiser, et nous avons vu que la prophétie, c'est pas forcément annoncer, ça peut comporter des faits qui vont arriver, mais ça c'est une partie infime. La prophétie, c'est 1 Corinthiens 15, 14, verset 3, consoler, encourager, exhorter, révéler la pensée de Dieu pour ici et maintenant. Et c'est de cela dont nous avons le plus besoin. Pas besoin forcément de savoir ce qui va se passer dans 5 ans. Moi, ce que je veux savoir, c'est aujourd'hui, comment continuer, avancer, ta direction, c'est de cela dont nous avons besoin. Donc, il y en a d'autres qui vont prophétiser. Acte 4, verset 31, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous dit, l'Écriture? Ils ont été remplis d'assurance. Combien de chrétiens me disent, frère, ah, j'aimerais bien parler et tout, mais j'ai peur, je crains. Ben, prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et que le Seigneur te donne de pouvoir parler avec assurance. Ensuite, il y a d'autres manifestations, une nouvelle ardeur. Acte 13, ils sont remplis de joie. J'avais un cher frère qui soutenait notre ministère, qui n'est plus de ce monde. Cet homme-là était dans le milieu mennonite, mais impressionnant. Je dis des trucs, moi. Impressionnant. Cet homme-là, il avait une joie chez lui. J'ai jamais vu ça. Et c'était pas sourire Colgate, quoi. C'était une joie profonde qui transpirait de son être. Chaque fois que je le rencontrais, je passais du temps avec lui, on discutait, on parlait du Seigneur, mais ouf, c'était comme si s'il y avait le ciel qui était là juste avec cet homme. Tellement il y avait la joie dans son être. Il parlait pas en langue, il n'y avait pas de nom de prophétie, mais il y avait une présence de l'Esprit dans sa vie. Oh, les gens, ils ressortaient, ils étaient interpellés. Interpellés par la présence du Saint-Esprit et par la joie qui était là. Une joie vraiment qui venait du ciel. Quelque chose de surnaturel. Est-ce que c'est pas beau, ça? Ça vaut autant que d'autres dons spirituel que parfois nous recherchons absolument. Donc ce que j'aimerais dire à travers cela, c'est que lorsque quelqu'un est immergé dans la présence du Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit, il est rempli de l'Esprit, il y a apparemment, en tout cas selon les actes, toujours des manifestations. Des manifestations, notez-le, qui ne sont pas recherchées. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on recherche trop souvent les manifestations. On n'a rien compris. On n'a pas compris que ce qui compte, c'est pas la manifestation en elle-même. Être rempli, parler en langue, prophétiser ou tomber ou vivre quelque chose de particulier. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de rechercher la présence de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu nous touche, il peut y avoir quelque chose qui se manifeste. Mais le fait qu'il y a quelque chose qui se manifeste n'est absolument pas un but en soi. Vous comprenez? Et le problème, c'est qu'après, nous allons nous focaliser là-dessus. Moi, à la limite, je m'en fous de comment ça se passe. L'essentiel, c'est que la personne vive quelque chose. Certains vont être remplis d'une grande joie, dont on se mettra en langue. Mais quand on est plongé, quand on est immergé, ça se voit. il y a une transformation, il y a des transformations, il y a des dons aussi qui peuvent nous être communiqués à ce moment-là. Alors ce qui importe, je le dis et je le ressouligne, c'est pas la manifestation en elle-même, c'est ce qui compte, c'est le donateur. Voilà ce qui est important, c'est celui qui donne. Je termine avec cette question, comment vivre quelque chose de nouveau avec l'esprit? Comment, oui, vivre un renouvellement? Je vous propose quelques pistes. La première piste, nous la trouvons toujours chez Luc, dans le livre des Actes, au chapitre 3, les versets 19 et 20. Ça va, vous me suivez encore? Oui, c'est bon? Personne qui dort? Enfin, apparemment, il y en a qui commencent. Hein. Attention, il y a un jogging qui est prévu. Et c'est Michel qui va les entraîner, parce que Michel est sportif. On a vu cet été à la Convention de France Évangélisation. Donc Michel qui va vous entraîner pour un petit footing de 2-3 kilomètres. On apprend des choses. Continuez. Donc nous sommes dans... Donc on n'est pas dans Michel, c'est Acte. Donc Acte 3, versets 19 et 20. Maintenant donc, dit l'apôtre Pierre, changez ou repentez-vous et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Écoutez ça. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, c'est-à-dire Jésus. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est que cette parole est en premier lieu adressée à des Juifs pas encore convertis. Alors, eux en avaient besoin, mais nous aussi, nous en avons besoin aujourd'hui. La repentance est le premier pas, comme vous le savez, pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est le premier pas pour entrer dans le royaume de Dieu. La repentance ne sauve personne, puisque nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais néanmoins, la repentance est le premier pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, si c'est le premier pas pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est aussi le second pas pour rester dedans. Donc, ça veut dire que si on veut vivre quelque chose de nouveau, la première étape, si toutefois il y a un problème à ce niveau-là, va être déjà de demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer, de nous montrer s'il y a peut-être un péché, s'il y a quelque chose que nous avons négligé dans notre vie, et de confesser la chose à Dieu, de confesser le péché à Dieu, et ainsi de pouvoir expérimenter un début de rafraîchissement spirituel. Tout commence toujours par là. Et puis la seconde piste consiste à venir, bien sûr, à Jésus. Puisque c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, que c'est Jésus qui renouvelle le don de l'Esprit-Saint, c'est vers lui que nous devons venir. Fait important, les quatre évangiles mentionnent que c'est Jésus qui baptise, qui donne le don du Saint-Esprit. C'est aussi lui alors qui le renouvelle. C'est Jésus qui dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, je crois, que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc ceux qui croient reçoivent l'Esprit, et quand on continue de croire, chaque fois on vient à lui. Et donc tout cela est important. C'est Christ qui nous remplit à nouveau, c'est Christ qui nous immerge dans la présence et dans la personne du Saint-Esprit. Et vous savez, quand Jésus a dit ça, c'est très intéressant, parce que Jésus a dit cela alors que c'était un grand jour de fête. Jésus a prononcé ces paroles pendant la fête, une fête qui durait 7 jours, et qu'il était à Jérusalem. Et il a prononcé cela en plein air, alors que tout le monde était là en train de l'écouter. Et il prononce cela. Il y a des Juifs aussi qui étaient présents. Et à ce moment-là, il y avait un rituel qui était pratiqué tous les jours par le sacrificateur. Pendant 7 jours, il versait de l'eau. Et cette eau qu'il versait était un symbole de l'esprit que les personnes devaient normalement recevoir. Et c'est dans ce contexte-là, alors que le sacrificateur versait tous les jours pendant ces 7 jours de l'eau, certains pensent même qu'il le faisait 7 fois par jour, le chiffre 7 étant le chiffre symbolique de la plénitude de Dieu. Et donc, certains qui pensent, eh bien, il était là tous les jours, il versait cela. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus intervient. Et qu'il souligne le fait suivant et qu'il dit, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est pas un rite. Moi, ce que je vous propose, c'est pas des traditions, verser de l'eau 7 fois pendant 7 jours ou 7 fois par jour pendant 7 jours. Moi, je vous propose autre chose. Moi, ce que je vous propose, c'est la véritable eau. Celui qui boit de cette eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein et ça va continuer et se déverser en lui et ça va continuer et se manifester aussi autour de lui. Et la troisième piste que l'Écriture nous donne, ou plutôt que, je dirais, l'expérience nous donne ici, eh bien, c'est la louange et l'adoration. Ces dernières années, moi, je suis content parce qu'on a redécouvert la louange et l'adoration, peut-être d'une manière nouvelle. Certains ont été un peu, peut-être, déçus, échaudés. C'est vrai que parfois, il y a plutôt certaines louanges ou adorations qui ressemblent davantage à des shows et qui sont là avant tout pour glorifier ceux qui sont sur scène ou pour montrer les talents musicaux des uns et des autres. Mais la véritable louange, c'est pas cela. La véritable louange, c'est d'abord un cœur d'adorateur. C'est un état d'esprit. C'est pour cela que celui qui joue, bien sûr, c'est bien s'il est doué musicalement, et tant mieux, et nous avons besoin de cela, mais avant tout, c'est un état d'esprit. Et l'objectif de la louange, ce n'est pas de faire un show, même si on est devant, même s'il y a des lumières, etc. L'objectif de la louange, c'est de pouvoir entraîner les autres dans l'adoration et dans la présence de Dieu. Et moi, je crois que c'est important parce que la présence de Dieu, où Dieu, l'Esprit se manifeste de différentes manières, mais la Bible nous dit aussi dans un des psaumes que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est-à-dire quand le peuple de Dieu est rassemblé, quand il n'a qu'un cœur, qu'une voix, qu'un désir, qu'une pensée, et qu'il recherche, non pas lui-même, mais qu'il recherche la présence de Dieu, et qu'il loue le Seigneur, c'est-à-dire qu'il dit du bien de Dieu. Dieu est aussi vraiment présent dans ces moments-là, je le crois, particulièrement. L'erreur serait d'utiliser la louange comme une technique. Et parfois, je vois cela. Il y en a qui vont louer le Seigneur, un peu comme une technique, et on s'imagine que finalement, après avoir chanté tant et tant de chants, il y a quelque chose qui va se passer. Encore une fois, c'est qu'on n'a rien compris. Comment je loue le Seigneur ? Je loue le Seigneur parce que je l'aime de tout mon cœur. Amen. C'est pour ça que je loue le Seigneur. Je suis venu tout à l'heure dans ma voiture cet après-midi, eh bien, j'ai passé au moins 2 heures là, avec la musique, à louer le Seigneur. J'étais tout seul. Pas besoin de montrer à quelqu'un que je joue. Je dis, si, je montre au Seigneur, Seigneur, je t'aime, et je te chante, je chante tes louanges. Et je suis là, avec toi, dans ta présence. Tu es toujours là, mais encore plus particulièrement dans ces moments-là. Et quand je vais dans un rassemblement où il y a la louange, où il y a 1000 ou 2 000 personnes, je ne vais pas pour le show ou quoi que ce soit. Moi, je dis, Seigneur, je suis là, je viens pour toi ce soir. Je viens pour toi pour te louer de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. Je ne viens pas pour recevoir quelque chose. Ça, c'est important aussi. Et je remarquais que quand je dis au Seigneur, je viens pas pour recevoir, je viens pas pour dire, ah Seigneur, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, avec toute ma liste de commissions, Seigneur, tu peux faire ci, tu peux faire ça ce soir, je vais te louer de tout mon cœur et je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va passer. Non, 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 non. Tout ça, je laisse de côté. Je suis là pour toi, pour te louer. Tu fais ce que tu veux. Et moi, je suis là pour toi. Et des fois, dans ces moments-là, Dieu nous parle et nous visite d'une manière particulière. Mais c'est une conséquence du fait que je suis là pour Dieu. Je ne recherche pas. Si Dieu le fait, je le prends. Tout ce que Dieu veut me donner, je le reçois. OK ? Et puis, la quatrième et dernière piste, et je conclue avec cela, c'est celle qui nous est proposée par Jésus lui-même en Luc 11, versets 9 à 13. Un passage sympa, ou tous les passages de l'Écriture. Il y en a quand même qui sont plus sympas que les autres. Quoi. Si vous prenez Lévitique, hein, ou alors un chronique, quoi, début c'est dur un peu, quoi. Frédéric Travier, il est trop fort, il fait un truc sur les chroniques avec des généalogies et tout, des trucs qu'on zappe, et puis lui, il fait un message dessus, je ne sais pas comment il fait. Il a l'esprit. Amen. Luc 11, à partir du verset 9. « Moi, je vous le dis, dit Jésus, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson ? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Alors ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il met en relief 3 éléments. Premier élément, Dieu est bon. Et il veut nous donner de bonnes choses. Dieu n'est pas un flic. Il est un juge, certes. Il se manifeste parfois, il se manifestera un jour sous cette manière-là. Mais Dieu est bon. et Dieu donne toujours de bonnes choses à ses enfants. Deuxième point qui est mis en évidence ici, au-delà des biens matériels et de toutes sortes de bénédictions que parfois nous recherchons avec beaucoup trop d'assiduité, la grande bénédiction ou le grand don que nous devons toujours à nouveau rechercher, même s'il est déjà présent en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Les biens spirituels sont plus importants que les biens matériels. Dans l'Ancien Testament, c'était le contraire. Les biens matériels étaient importants parce qu'ils étaient signes de la bénédiction de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a inversion. Dans le Nouveau Testament, béni soit Père, le Dieu notre Père, il nous a bénis, non pas de ce qu'on ait un compte bien garni à la banque telle ou telle, mais de ce qu'il nous est béni dans les lieux spirituels. Bien sûr, la bénédiction se manifeste aussi de manière matérielle, mais l'accent est beaucoup plus fort sur la bénédiction spirituelle. C'est beaucoup plus important parce que la bénédiction spirituelle nous permet d'avancer, d'accomplir l'œuvre pour laquelle, à laquelle Dieu nous a appelés. Et puis troisièmement, Dieu nous demande simplement de demander. De demander lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes découragés, et de ne pas baisser les bras. De continuer de demander. Tu as demandé une fois, c'est très bien, demande une deuxième fois. Demande une troisième fois. Nous autres, souvent, aujourd'hui, nous nous décourageons, nous pensons, nous avons demandé une fois, deux fois, la volonté de Dieu est de s'arrêter, de ne pas continuer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais que ce n'est pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Tant qu'il ne t'a pas dit quelque chose, tu continues de prier. Pour un juif, voir, demander, chercher, frapper, c'était évident. Le juif avait l'habitude de persévérer. Ça faisait partie de la mentalité. Et nous autres, aujourd'hui, nous oublions parfois cela. Nous oublions de continuer de demander au Seigneur, de continuer d'attendre, de recevoir de lui. Dans un bon esprit, non pas dans un esprit où on est là en train de se plaindre, non, mais de continuer à demander pour que Dieu continue de nous accorder ce dont nous avons besoin. Donc ce soir, ce que je voulais surtout souligner par rapport à la personne du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu est une puissance, que l'Esprit de Dieu est un don personnel que nous recevons personnellement, que c'est un cadeau de Dieu, un merveilleux cadeau que nous recevons dans notre vie et que nous sommes et que Dieu nous appelle à continuer de demander et à recevoir. Même si nous avons déjà vécu quelque chose avec lui, et ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est que surtout ne pas nous arrêter sur des expériences passées. Les expériences passées sont bien, elles peuvent encourager, nous encourager, encourager des jeunes, encourager des personnes que nous rencontrons. Mais ne pas nous arrêter sur du vieux, mais nous arrêter, rechercher toujours quelque chose de nouveau. Tout en étant content et reconnaissant pour ce que nous avons vécu. Afin d'être satisfait, bien sûr, d'être content de ce que Dieu nous a donné, mais de nous dire que Dieu veut continuer de nous donner, parce que nous en avons besoin. Quel que soit notre âge, quel que soit notre âge, Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut nous redynamiser, nous redonner ce souffle pour nous transdynamiser, pour nous permettre de pouvoir vivre notre vie chrétienne et aussi de pouvoir être des témoins. Alors nous ne devons pas avoir peur de demander au Seigneur. N'ayons pas peur aussi des manifestations qui peuvent se passer. Nous ne recherchons pas les manifestations, on ne s'inscrit pas, en tout cas moi je ne m'inscris pas dans cette dynamique. Si Dieu les donne et si Dieu la donne, ce n'est qu'une conséquence d'une œuvre beaucoup plus profonde qu'il accomplit en nous. Vous comprenez? La manifestation, eh bien, elle sera là parce qu'on est touché. Quand quelqu'un vous parle d'un événement que vous avez vécu et qui vous touche profondément, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peut-être pleurer. Il va y avoir des sanglots, il va y avoir des rires qui vont se manifester. Ces rires, on ne les recherche pas, ces sanglots, on ne les recherche pas non plus. Mais la même chose est vraie, lorsque le Saint-Esprit vient faire une œuvre en nous, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Et on veut glorifier à travers tout cela le Seigneur. Et de toute façon se dire que lorsque Dieu nous donne, ou l'Esprit de Dieu nous donne de vivre quelque chose, si ça vient de lui, ce sera toujours bon. Que ça nous déstabilise, c'est normal. Parce que l'objectif de Dieu est de nous déstabiliser, de nous permettre de vivre quelque chose de nouveau et parfois d'être dérangé dans nos habitudes. Alors surtout, veillons aussi à ne pas enfermer l'Esprit de Dieu dans une doctrine. Ne pas enfermer l'Esprit de Dieu dans des traditions. Ne pas enfermer l'Esprit de Dieu dans des confessions de foi. Les confessions de foi, nous en avons besoin. Elles sont très bien. OK? Mais l'Esprit de Dieu ne reste pas dans une confession de foi. Non, Jésus non plus, Dieu le Père non plus. Il est beaucoup plus grand que la confession de foi. Et ce qui compte, c'est de vivre quelque chose avec lui, en conformité toujours avec sa parole. Amen. Nous voulons prier, puis ensuite nous prendrons un chant. Je demande aux amis de le préparer pendant ce temps-là. Merci. Seigneur, nous voulons te louer ce soir parce que tu as répandu sur nous et tu répands sur nous ton esprit. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que tellement souvent nous l'enfermons dans nos schémas, à commencer par moi-même. Nous l'enfermons dans les expériences que nous avons vécues, pensant que les autres doivent vivre exactement la même chose que nous. Nous l'enfermons, Seigneur, dans les dons, que ce soit le parler en langue, la prophétie, ou alors d'autres dons, Seigneur, que tu donnes, d'autres signes qui montrent qu'il y a eu une œuvre qui s'est passée en nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir enfermé ton esprit dans des endroits, dans des coins, des choses qui ne venaient pas de toi. Tu nous dis dans ta parole que l'esprit souffle où il veut. Il a sa propre personnalité. Il a son propre vouloir, il agit où il veut, comme il veut, quand il veut. Et c'est vrai que parfois, Seigneur, nous sommes surpris. Nous nous disons, mince alors, il agit là-bas et nous-mêmes, nous aimerions tant vivre quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons que ce soir nous adresser à toi et te dire, Seigneur, viens nous visiter, nous aussi. Viens nous rafraîchir, viens nous remplir à nouveau de la vie de ton esprit. Seigneur, ce dont nous avons besoin et ce dont j'ai besoin, c'est d'être à nouveau rafraîchi. Remplis, Seigneur, de ton esprit de vie, afin de pouvoir te glorifier, afin de pouvoir vivre cette vie chrétienne que tu nous as donnée, afin de pouvoir te servir, afin de pouvoir, Seigneur, aussi répandre cet évangile. Et je pense aussi à tous ceux qui sont engagés là-dedans. Seigneur, qu'un souffle nouveau vienne les habiter, vienne nous habiter. Que ce souffle, Seigneur Jésus, puisse réveiller en nous ce qui a besoin d'être réveillé, secouer, changer ce qui a besoin d'être changé en nous. Que ce souffle de vie puisse aussi nous déstabiliser. Et Seigneur, merci parce que ce n'est pas aux jeunes ou aux moins jeunes ou à ceux qui sont très âgés que tu veux donner. C'est à tout âge, Seigneur, que c'est possible de vivre quelque chose de frais et de nouveau avec toi. Je te remercie et je te loue vraiment de tout mon cœur ce soir. Et nous te remercions et nous te louons, Seigneur, pour ton esprit de vie. Nous te prions qu'il nous visite encore. Rends-nous sensibles aussi dans ces heures, dans ces jours, dans ces semaines qui vont vivre, afin que nous nous attendions à recevoir quelque chose de nouveau aussi avec toi, et en même temps que nous sachions vivre dans la reconnaissance et dans l'adoration pour tout ce que tu nous as déjà donné. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Merci vraiment. Merci Seigneur parce que tu agis partout, aussi dans notre pays de France et pas simplement dans d'autres pays. Et parfois nous nous disons, mince alors et chez nous, et bien chez nous Seigneur, tu es le même. Tu es le même Jésus, tu es le même Esprit, tu es le même Père qui agit, que ce soit au Burkina, que ce soit à Kinshasa, en Haïti, en Amérique du Sud. Tu es le même Seigneur et Sauveur et Seigneur que nous servons. Et nous te glorifions Seigneur. Merci pour la vie de chacun. Merci pour l'œuvre que ton esprit a déjà accomplie et que pour tout ce que tu vas continuer de faire, nous nous réjouissons, Seigneur, et nous te glorifions. Amen. Amen. Nous voulons prendre ce refrain qui se trouve dans le recueil « J'aime 2 ». On aime aussi le 1 et le 3, mais là on va aimer le 2. C'est « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». On peut peut-être se lever et nous voulons prendre ce refrain vraiment ce soir comme une prière. C'est une prière que nous adressons au Seigneur et nous lui disons, Seigneur, eh bien, plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme. Et aussi souvent notre âme est parfois sèche. Notre prière, c'est Seigneur, inonde le désert de mon âme. Nous avons besoin de cela. Thank you.
Ok, que dire merci au Seigneur, qu'il touche nos cœurs par son esprit, qu'il nous anime, qu'il nous réveille, qu'il nous console, qu'il nous reprenne. Merci Emmanuel pour ton vécu, ton authenticité, ton humour aussi, je l'aime bien. J'ai envie de peut-être te taquiner en partant, dans le sens où on vit peut-être tous aussi peut-être ce combat entre le spirituel, laisser Dieu agir par son esprit, et puis le côté matériel où on aime bien diriger, on aime bien gérer. Et j'ai juste pensé à ça tout à l'heure quand tu disais que dans la voiture, pendant 2 heures de temps, tu avais loué l'Éternel hein, avec des chants. Et puis ça m'a fait penser, en même temps tu m'as téléphoné, tu peux me donner l'adresse de la rue que je vais mettre dans mon GPS pour qu'il me guide jusqu'ici. Je me suis dit, des fois on est... Il y a les deux et on vit avec. On est sur terre encore.
L'un n'empêche pas l'autre.
Il s'affirme. Que Dieu vous bénisse. Repassez ces choses dans votre cœur aussi, comme la parole nous le demande. Bonne nuit et à demain. Soyez bénis.